Les disparités de profils socio-économiques que l'on peut observer tout premièrement au niveau macro des systèmes de ville, en comparant les différentes villes d'un système de ville, peuvent aussi très largement s'observer au sein même d'une de ces villes. Les activités économiques s'y organisent là aussi selon différentes logiques et ce sera l'objet de cette vidéo. À partir des récurrences que l'on observera, nous pouvons établir un certain nombre de faits stylisés ou des modélisations qui permettent de comprendre la localisation de ces activités économiques. Ces logiques de localisation mènent à un étagement des activités selon un gradient de prix foncier qui diminue donc plus on s'éloigne du centre et diverses économies réalisées par les acteurs économiques vont nous permettre de comprendre ces localisations différenciées. Nous dépassons donc le cas ici d'une ville spécialisée, par exemple ici le cas de Sochaux-Montbéliard, très spécialisée dans les activités liées à l'automobile. On voit ici l'emprise très importante de PSA Peugeot Citroën dans cette agglomération de Sochaux-Montbéliard. On dépasse donc ici cette approche par les villes spécialisées plutôt pour observer les spécialisations internes à ces différentes villes. Prenons ici l'exemple du Cap en Afrique du Sud, où nous pouvons observer tout premièrement dans le paysage urbain un certain nombre de spécialisations économiques. Nous observons premièrement le Central Business District qui apparaît ici au cœur de la ville, mais aussi des activités portuaires dans un quartier très spécialisé. Et donc dans le paysage urbain, nous pouvons tout premièrement observer ces centralités particulières et ces spécialisations particulières. Pour comprendre l'étagement des activités au sein d'une ville, nous pouvons transposer à la ville le modèle de Fontunen qui permettait d'observer l'organisation en auréole concentrique des productions agricoles autour d'un marché qui était localisé dans une ville. Ici, nous mobilisons la théorie de la rente foncière, là aussi, mais au sein même de la ville, et nous observons là aussi un étagement de ces différentes activités au sein même de la ville. La différence fondamentale ici, c'est que les habitants et les activités économiques sont ici en concurrence pour l'espace et nous n'avons pas que des activités économiques qui apparaissent sur notre graphique ici, mais aussi des logements. Nous avons donc un premier noyau central constitué d'activités supérieures qui sont les plus à même de proposer des enchères plus importantes pour s'installer dans ces parties centrales des villes. Puis nous avons des industries plus ou moins innovantes qui constituent une deuxième auréole autour du point central de la ville. Enfin, des logements. Et au-delà de cette couronne de logements, nous retrouvons les activités agricoles. Nous sortons donc de la ville et nous arrivons dans des parties plus rurales, avec donc un étagement des activités qui peuvent dégager un bénéfice suffisamment important pour se localiser au centre, vers des activités qui dégagent des bénéfices moins importants. Différents auteurs ont tenté d'expliquer ces valeurs foncières urbaines en s'y prenant de manière un petit peu différente, en conceptualisant les choses de manière un petit peu différente. Marshall, par exemple, a tenté d'expliquer cette valeur du sol urbain en considérant la valeur agricole à laquelle on ajoute des avantages de localisation. On peut considérer une certaine valeur d'opinion reliée à la spéculation, mais Alonso, ici, propose de considérer un certain budget et donc un certain arbitrage entre un coût de loyer et un coût de transport, qui est relié à la distance au centre lui aussi. Différents autres facteurs permettent d'expliquer les valeurs spécifiques du foncier au sein de la ville. La planification urbaine, avec les plans d'occupation du sol ou les plans locaux d'urbanisme qui peuvent très largement contraindre ces valeurs foncières au sein de la ville. La législation, avec des fiscalités qui peuvent être plus ou moins avantageuses, ainsi que des effets de site ou des recherches d'entre-soi. Pour ce qui est des effets de site, on peut avoir une accessibilité plus importante dans un certain nombre de cas. On peut avoir une proximité plus importante à des espaces verts qui peuvent là aussi relever les valeurs foncières à proximité. Et plus spécifiquement, pour ce qui est de ces deux derniers points, la recherche d'un entre-soi correspond plutôt à la ségrégation résidentielle au sein de la ville. Les économies d'agglomération, ce dernier point correspond peut-être plus aux activités économiques. Et ce que l'on observe donc au sein de la ville, c'est un premier étagement centre-périphérie avec des pôles d'emploi qui sont de taille plus importante au centre de l'agglomération parisienne ici et de taille de moins en moins importante à mesure que l'on s'éloigne de ce centre. Mais on peut déjà remarquer un certain nombre de centralités secondaires au sein de l'agglomération. Des centralités secondaires avec des pôles de taille relativement importante, alors même qu'ils sont à distance relativement importante du centre. On peut remarquer également que les activités localisées en périphérie sont plus ou moins spécialisées, alors même que dans le centre, nous avons des activités qui sont très largement destinées aux entreprises, des activités administratives ou alors ici à la défense, des services aux entreprises. Nous avons ensuite une première couronne constituée d'activités commerciales, mais nous avons surtout ces centralités secondaires au sein de la petite couronne et de la grande couronne. Cette centralité dont je vous ai déjà parlé, où on a une spécialisation dans le transport et le commerce de gros, qui correspond à la zone de l'aéroport de Roissy. Et cette zone-ci, ce pôle d'emploi-ci, qui correspond à la fois à l'aéroport d'Orly, mais aussi au marché international de Rungis. Donc une certaine organisation centre-périphérie, mais également des centralités secondaires, plus ou moins spécialisées, plus ou moins diversifiées au sein de nos agglomérations urbaines. Et donc nous observons, plutôt qu'un simple étagement des activités et des logements autour du centre, des centralités secondaires en modifiant quelque peu le document présenté précédemment. Nous avons ici un étagement comme précédemment, tout d'abord des activités supérieures, puis des industries, puis du logement, mais nous observons ici des centralités secondaires qui apparaissent. Et ces centralités secondaires, on peut les expliquer par différents facteurs, des économies de localisation et des accessibilités différenciées par exemple. On peut très bien imaginer que ces pôles secondaires que l'on observe ici et là, où on a des activités supérieures qui sont à distance du centre, sont par exemple localisés à proximité d'une gare qui permet de relier facilement le centre, alors que la zone localisée ici, où nous ne trouvons que des logements, est peut-être d'accessibilité plus difficile pour relier le centre de la ville. Nous avons donc une certaine spécialisation des zones d'emploi au sein de notre agglomération. Ici, prenons l'exemple de Canary Wharf à Londres, où nous avons l'émergence à partir des années 70-80 principalement d'une centralité secondaire au sein de l'agglomération de Londres, avec ce quartier très largement spécialisé dans les activités financières. Mais donc plus largement, nous avons des polarités très différentes au sein d'une agglomération et des spécialisations très différentes au sein même de ces agglomérations. On retrouve à nouveau ici un exemple autour de Paris, avec un hypercentre ici basé sur Paris Intramuros et une partie de la petite couronne, avec un hypercentre diversifié ou plus spécialisé, selon la localisation exacte dans cet hypercentre. Et nous pouvons observer, en plus de cet hypercentre, des pôles locaux plutôt situés en périphérie, avec des pôles locaux spécialisés et des pôles locaux diversifiés. Nous avons donc une hiérarchie des centralités dans la ville et une multipolarité avec des centres secondaires qui sont tantôt spécialisés, tantôt diversifiés. Nous retrouvons par exemple, comme pôle diversifié, le cas de Marne-la-Vallée ici, où l'agglomération ancienne de Versailles, peu à peu rattrapée par l'agglomération parisienne, nous pouvons trouver d'autres pôles locaux plus spécialisés, ici par exemple autour d'Évry. Au sein même de Paris Intramuros, lorsque l'on s'intéresse ici aux strictes activités commerciales, nous retrouvons là aussi des centralités bien particulières. Nous retrouvons des centralités de niveau supérieur, plutôt dans les teintes chaudes, et des centralités de niveau inférieur ou intermédiaire, plutôt dans les couleurs froides. Et ce que nous retrouvons ici, ce n'est pas simplement une organisation centre-périphérie à l'intérieur de Paris intramuros, même si nous avons des centralités de niveau supérieur qui sont très largement au centre de Paris, mais nous avons également au sein de ces centralités de niveau supérieur des commerces plutôt diversifiés ou des spécialisations très intenses. Commerces diversifiés qui apparaissent ici en rouge, mais nous avons un ensemble d'autres cas où nous avons des commerces très spécialisés autour de Pigalle par exemple, autour du quartier de l'Opéra en jaune ici avec les quartiers des grands magasins autour des grands boulevards de Paris. Et tout autour de ces différentes centralités de niveau supérieur, des centralités de niveau intermédiaire ou inférieur qui sont destinées plutôt à la population environnante et qui n'ont pas un niveau de polarisation plus important. Ces activités commerciales qui sont localisées au sein de la ville de Paris sur le document précédent et qui forment des sortes de clusters peuvent présenter des configurations spécifiques. Chaque activité commerciale observée ici à Bruxelles présente une configuration spécifique lorsque l'on localise les différents établissements. Si par exemple on considère la comparaison des agences immobilières et des banques, nous pouvons remarquer que pour les agences immobilières, nous avons une grande couverture de Bruxelles. La distance à l'agence immobilière la plus proche est relativement faible, tout comme pour les banques qui présentent une couverture intéressante de l'ensemble de la ville de Bruxelles. Ce que l'on peut remarquer comme différence, c'est qu'une agence immobilière n'est jamais située à proximité d'une autre agence immobilière. On a ici des forces répulsives entre les différentes agences immobilières, alors que les banques ont tendance à s'agglomérer en petits clusters au sein de la ville de Bruxelles. Lorsque vous avez une agence bancaire, vous allez retrouver d'autres agences bancaires concurrentes à proximité directe. Nous pouvons prendre également l'exemple des vêtements, qui sont des commerces de vêtements qui sont très largement concentrés le long des grandes artères commerciales. Mais à l'inverse de la banque et de ses agences immobilières, nous avons d'autres types d'activités qui sont très concentrées dans l'espace et qui ne présentent pas cette même couverture du territoire urbain ici. Par exemple, les antiquités et la brocante, où nous avons des quartiers très spécifiques ici dans le centre de Bruxelles, les activités liées à la prostitution ou aux objets de collection sont également très concentrées dans l'espace et aboutissent à la constitution de quartiers très spécialisés. Nous avons ici un exemple de commerce spécialisé à Flushing, un des Chinatown de New York. Nous avons donc cet exemple de commerce destiné à la population locale qui est agglomérée autour de ces artères commerciales de Flushing. Mais plus largement, donc, nous avons ces différentes spécialisations et ces différents niveaux de centralité au niveau d'une métropole. Et cette diversité ou cette spécialisation que l'on a premièrement observée entre les différentes villes, que l'on a observé au cours de cette vidéo au sein même des différentes villes, on peut aussi l'observer à un niveau plus régional en considérant le polycentrisme au-delà de la simple métropole parisienne. Nous avons ici le bassin parisien qui est représenté et Frédéric Gilly, qui a travaillé sur l'industrie dans ce bassin parisien, a montré que dans cet espace métropolitain où nous avons ici la région Île-de-France, nous avons une industrie qui est plutôt diversifiée, avec des emplois très spécialisés, donc un profil relativement métropolitain. Des pôles locaux, des villes avant-postes localisées à proximité très directe, qui sont directement sous influence de cet espace métropolitain. Des pôles régionaux qui sont quasiment exclusivement reliés à la métropole centrale, ces villes qui apparaissent ici en rouge, ces pôles régionaux en rouge, qui présentent une industrie diversifiée, mais très souvent pilotée depuis l'espace métropolitain, et enfin des zones plus périphériques avec des spécialisations monosectorielles à mesure que l'on s'éloigne du centre de la métropole. Nous pouvons donc observer à la fois les spécialisations économiques et la diversité des profils économiques, à la fois au niveau du système de ville et au niveau des villes en elles-mêmes.